Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
L'armée a continué ce jeudi avec la poursuite des rebelles ADF dans la chefferie des Bachou au lendemain de l'attaque de la prison centrale de Boutembo. La société civile locale qui encourage les efforts militaires dans cette traque indique que ces rebelles ont tué des personnes et pillé des biens de la population à leur passage. 200 enfants ont été atteints de la rougeole dans la province du Haut-Touélé pour casser la chaîne de transmission. Une campagne de vaccination a démarré ce mercredi dans 12 aires de santé. Environ 77 850 enfants sont attendus. Enfin, la population congolaise n'a pas besoin de chasser la MONUSCO. C'est ce qu'a dit Justin Bitakwira, ancien élu national d'Uvira. C'est lors d'un meeting qu'il a tenu mardi dernier. L'objectif pour lui est d'apaiser la tension des sentiments anti-MONUSCO dans la région. Justin Bitakwira est notre invité dans cette édition du journal. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, l'armée continue ce jeudi avec la poursuite des rebelles ADF dans la chefferie des Bachou au lendemain de l'attaque de la prison centrale de Boutembo. Des affrontements sont signalés dans différentes entités depuis la nuit dernière. La société civile locale qui encourage les efforts militaires dans cette traque indique que ces rebelles ont tué des personnes et pillé des biens de la population à leur passage dans plusieurs villages. Les détails avec Blaise Ndongala.
Les sources de la société civile de Bachou parlent de 3 personnes civiles tuées, notamment dans les villages Kassitou et Maliyi. 6 autres ont été emportés à Kateya, dans les groupements Banyuka, ajoutent les mêmes sources. Ces dernières rapportent que les rebelles ADF ont procédé à des pillages des biens, dont des bétails dans des ménages et des boutiques à Banyuka, Vutondi, Kassitou, Isonga et ailleurs. Le président de cette société civile indique que d'autres personnes enlevées à Isonga ont su s'échapper lors des affrontements déclenchés ce jeudi par l'armée pour traquer l'ennemi dans sa fuite. Contacté à ce sujet, le porte-parole des opérations Sokola 1, capitaine Anthony Mwalouchey, promet de réagir dès que possible. Rappelons que les rebelles ADF qui ont attaqué la prison centrale de Boutembo sont venus de la vallée de Mwalika selon l'armée en chefferie de Bachou dans les territoires de Beni. La société civile de Bachou, qui se dit inquiète du retour de ces rebelles dans la zone, encourage l'armée à fournir plus d'efforts afin de les neutraliser complètement. Elle appelle ainsi la population à collaborer étroitement avec les services de sécurité en vue des résultats escomptés.
Toujours au Nord Kivu, ça va faire bientôt 2 mois que la rébellion du M23 occupe une partie du territoire de Rutshuru. Une dizaine des composantes de la coordination territoriale de la société civile locale est réunie en assemblée générale hier au chef-lieu du territoire, déplore cette situation. Dans leur déclaration, ces acteurs dénoncent une trêve observée sur la ligne de front alors que la population déracinée de leurs biens souffre en déplacement. Le président de cette coordination dit que sa structure menace de mener des actions de pression sur le gouvernement congolais. Jean-Claude Bambazé au micro de Radio Okapi.
La société civile s'est réunie hier pour préparer une marche pacifique qui va commencer de Rutshuru vers Goma, siège des institutions provinciales, parce que nous observons un silence sur les lignes de front. Nos militaires FARDC n'attaquent pas l'ennemi, mais c'est plutôt l'ennemi qui se réorganise et après sa consolidation, c'est l'ennemi qui impose même les rythmes de combat à nos militaires, et chose qui est inacceptable. Mais quand l'M23 veut, il attaque et nous ne continuons à garder le cessez-le-feu. Pourquoi ça? La semaine passée, ils ont attaqué Bukima. Et où est ce cessez-le-feu? Donc, eux, ils peuvent attaquer quand ils veulent et nous, on nous impose le cessez-le-feu. C'est pas normal.
Rappelons que le dernier accrochage dans la zone de combat entre les FARDC et la rébellion du M23 remonte au mardi 9 août dernier. C'était dans la zone de Nyesisi, aux limites entre les groupements de Kisigari et Rugari. Et puis dans la province du Haut-Touélé, en territoire de Dungu, la population est invitée à ne plus remettre de l'argent aux militaires et policiers qui sont postés à des barrières. C'est ce qui ressort de la rencontre qui a réuni mardi dernier à Dungu les autorités militaires des FARDC et les acteurs de la société civile. C'était pour voir dans quelle mesure mettre fin aux tracasseries perpétrées par des éléments des forces de l'ordre sur plusieurs axes routiers. Par ailleurs, les usagers routiers sont appelés à se munir de leurs pièces d'identité et à dénoncer tout cas de tracasserie pour que leurs auteurs soient sanctionnés. Waiwai Lebon, coordonnateur de la nouvelle société civile de Dungu, dit que cette rencontre fait suite aux multiples plaintes de la population à l'encontre des forces de défense et de sécurité. Il est joint au téléphone par Jean-Claude Lokidile.
Les militaires
militaire demandait à chaque passant de verser quelque chose de 1000 francs ou 2000 francs obligatoirement à tous les passants, même celui qui va au champ. Après multiples interventions, ce système ne changeait toujours pas. La société civile avait jugé bon de voir le numéro 1 de l'armée. Avec lui, nous sommes tombés d'accord que le militaire ne demande plus rien à la population. Celui qui osera de demander cet argent encore que la population le dénonce, il sera sévèrement puni par le général lui-même. Et à la population de se promener aussi avec leur pièce d'identité. C'est question d'évaluer quelqu'un qui est ici. On peut facilement l'identifier et quelqu'un qui vient de loin ou qui a des choses suspectes, il peut être aussi facilement identifié. Et que la population accepte qu'on puisse les fier parce qu'il y a des infiltrés ou des gens qui peuvent entrer avec des choses qui vont peut-être nuire au vie de la population.
Et puis, deux blessés, dont une fille par balle, un militaire molesté par la population, un véhicule vandalisé et des arrestations. C'est le bilan des échauffourées ce mercredi dans la commune de Kikula, à Likasi, dans le Haut-Katanga. D'après le maire de la ville, des militaires en mission ont été pris en partie par une population en colère. Cette dernière croyait que les militaires venaient de déclencher l'opération Zéro Délinquant. Des précisions avec Paulin Munanga.
Plusieurs sources concordantes affirment qu'une unité de renseignement militaire ville de Likasi a envoyé quelques éléments dans la commune de Kikula. Pour les maires de Likasi, leur mission était d'arrêter des personnes qui s'adonnent au chanvre et à l'alcool prohibé dans certains bistrots dénommés staff. Alertée par la présence de ces agents dans la commune, la population s'est mobilisée pour dénoncer cette présence qu'elle pensait être celle de l'opération Zéro Délinquant. Dans cette confusion, l'un des agents a été maîtrisé par la population qui l'a passé à tabac. Mais il a eu la vie sauf grâce à l'intervention de la police. S'en est suivi des accrochages entre la police et la population. Cette dernière lançait des projectiles à la police qui ripostait en tirant des coups de feu en l'air pour les disperser. D'après le commandant de la police ville de Likasi, une balle perdue a atteint une fille d'une dizaine d'années au niveau de l'abdomen. Idesbal de Petwe Kapande, maire de Likasi, précise que la fille et les militaires sont internés à l'hôpital d'Ako de Likasi. Kalemi, Pole Munanga, Radio Capi.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, près de 200 enfants ont été atteints de la rougeole depuis le mois de février dernier dans la province du Haut-Touélé. C'est ce qu'indique le médecin-chef des zones de santé de cette entité. Pour casser la chaîne de transmission de cette maladie, une campagne de vaccination a démarré ce mercredi dans 12 aires de santé. Il s'agit d'un don du gouvernement central. Cette activité va durer 5 jours, vise à atteindre environ 77 850 enfants. Docteur Innocent Aouleri appelle les parents à amener massivement leurs enfants au site de vaccination pour les aider à prévenir cette maladie qui n'a jusqu'ici pas de médicaments. Il est au téléphone de Jean-Claude Lokidile.
Nous sommes parmi les zones les plus touchées de la province. La rougeole, c'est une maladie contagieuse, c'est plus mortelle, c'est alarmant. C'est pourquoi c'est ce qui justifie cette campagne-là. Nous encourageons les parents de venir nombreux d'amener les enfants dans les sites qui sont indiqués par les infirmiers titulaires. Il y a les centres de santé et il y a aussi des sites avancés que les infirmiers titulaires ont préparés. Il faut que les parents amènent les enfants parce que la rougeole, c'est une maladie très contagieuse et puis la rougeole tue. Il faut que les parents amènent vraiment les enfants. Il n'y a pas de médicaments donc pour lutter contre la rougeole à part les vaccins. Il n'y a que les vaccins.
Notons que cette campagne de vaccination est appuyée par l'ONG humanitaire Médecins Sans Frontières. Par ailleurs, même si à Calmi, nous devons lutter contre la maladie à Covid-19, c'est ce que déclare le programme élargi de vaccination Sud Kivu ce mardi 9 août, à l'occasion du lancement de la deuxième phase de vaccination contre la Covid-19. 7600 personnes à atteindre pour cette phase de la province du Sud Kivu. Pour le médecin coordonnateur du PEV Sud Kivu, la maladie est là et il faut prendre des mesures conséquentes par rapport à cela. Le docteur Joseph Matundanya dans cet extrait choisi par Rachel Kisembango.
Au site Kivu, nous sommes au-delà de 42 000 personnes vaccinées. Et le pays, on est autour de 3 400 000 personnes vaccinées. Mais actuellement, l'Afrique, d'autres pays, la République démocratique du Congo, il y a des cas. Pendant cette période, il y a 36 cas, comme on l'a présenté. Il y a 36 cas notifiés dans une semaine au site Kivu. C'est-à-dire, la maladie est là. Si les gens ne prennent pas les mesures conséquentes par rapport à ça, on peut avoir encore la recrudescence. Et des raisons pour laquelle, en tant qu'acteurs de santé, nous devons prendre les actions, même s'il y a à calmer, on ne doit pas croiser le problème devant le pays. C'est 7 600 personnes qu'on doit vacciner pendant cette phase. Raison pour laquelle nous demandons toute la population d'adhérer pour que nous puissions arriver à ces 20%. Mais l'objectif est d'atteindre 3 600 qui constitueraient la cible, c'est-à-dire 45,2% de la population de cette Kivu.
Autre nouvelle, dans la province de la Tchopo, le matériel de la cimenterie de Maïko, gardé dans l'entrepôt de la CENI à la STP, ex-Onatra Kisangani, doit être évacué dans l'urgence afin de permettre au secrétariat exécutif de la CENI de recevoir les équipements électoraux. C'est ce qui ressort de la mission de la centrale électorale à Kisangani mardi dernier. Ceci en prévision du lancement au mois d'octobre prochain des opérations de la révision du fichier électoral. Jacques Moukonkolé.
Cette mission a consisté en un état des lieux et à l'identification des sites où seront entreposés les équipements électoraux à Kisangani. Ces derniers seront destinés à la Tchopo et au Bas-Ouélé. Une partie sera envoyée dans la province de la Tchopa, à savoir Ikela, Djolou et Bokili, ainsi que le Maniema, notamment à Punia et Lubutu. Selon le secrétariat exécutif de la CENI Tchopo, en dehors de l'entrepôt pris en location à la SCTP et qui doit être libéré par la CIMAICO, quatre autres entrepôts des privés ont été identifiés dans la ville pour cette fin. Cependant, ceux-ci ne remplissent pas certains critères liés notamment à l'accessibilité, la grandeur exigée et l'aspect sécuritaire. C'est ainsi que la CENI envisage la construction dans un bref délai d'un grand entrepôt supplémentaire au sein du secrétariat exécutif et provincial de la CENI Tchopo. Un devis a été remis à la délégation pour la réalisation de ce projet. Le gouverneur par intérim promet son implication pour la délocalisation du matériel de la CIMAI à un autre endroit sûr afin de permettre à la centrale électorale de bien mener son travail. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
L'Institut supérieur de développement rural ISDER Mbandaka a la vocation de former des techniciens en développement rural. Mais en vue de la mondialisation et de relèvement des défis du développement durable, cette institution s'est engagée également à doter son personnel académique ainsi que ses étudiants des notions relatives au leadership transformationnel. Car cette institution est appelée à la transformation de toute la communauté. Voilà qui explique la conférence séminaire qu'a animée ce mercredi dans cet établissement. Un condensé de Paul-Richard Malengela.
Le professeur Folle de Gundalim, l'orateur du jour, a indiqué qu'il existe une centaine de définitions valables. Ce concept traduit simplement l'autorité qu'exerce un leader pour influencer et transformer sa communauté. Quoiqu'à la fois un art à développer et une science à apprendre, le leadership se fonde sur trois éléments, dont la personnalité, les capacités et le comportement du leader. Mais le docteur Folle a insisté sur le leadership transformationnel qui exige d'être au service des autres.
Nous avons insisté sur le leadership serviteur comme une des qualités pour la transformation communautaire. Le leadership n'est pas cet aspect des chefs, mais plutôt des dirigeants. Un leader, c'est lui qui montre la voie à suivre. Mais pour y parvenir, il y a beaucoup de prérequis, beaucoup d'exigences. Nous avons insisté sur trois approches. La personnalité en leadership est importante. Nous avons insisté sur l'approche des compétences, la capacité de résoudre des problèmes. Et enfin, les comportements, la relation entre les leaders et ceux qui le dirigent.
Enfin, le DG de l'ISDER Mbandaka a reconnu la nécessité du séminaire sur le leadership et l'a intégré comme activité académique dans son institution. Car, a conclu le professeur Juscal Luando, cet établissement de l'Essu doit effectivement jouer son rôle, celui des locomotives de développement durable à l'Équateur. Mbandaka pour Chamalengue, la radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président Ali Bongo Ondimba a reçu hier mercredi son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra. Le Gabon, qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent, est très courtisé. Face à la presse, le président centrafricain a affirmé être venu à Libreville pour remercier le Gabon pour le rôle qu'il a joué au Conseil de sécurité de l'ONU lors d'un récent vote sur la levée de l'embargo sur les armes en faveur de l'armée centrafricaine. Et puis Donald Trump a publié hier mercredi un message sur sa plateforme Truth Social suggérant que les agents de la police fédérale américaine pourraient avoir placé de preuves contre lui dans sa résidence de Mar-a-Lago. Aucun élément ne permet d'étayer ses propos, mais Donald Trump s'appuie sur le fait que personne, pas même ses avocats, n'était autorisé à être présent lors de la perquisition. L'absence de témoins lors d'une intervention de FBI est pourtant la norme, expliquent les experts américains.
L'invité.
Justin Bitakwira, ancien député élu d'Ouvira et ministre national honoraire du développement rural, a conféré ce mardi dans un meeting avec la population civile locale d'Ouvira. Le président du parti politique ARCN a déclaré que la population congolaise n'a pas besoin de chasser la MONUSCO. Le meeting relayé par les médias locaux avait pour objectif d'apaiser la tension de sentiments anti-MONUSCO. Justin Bitakwira est notre invité dans cette édition du journal. Il s'entretient avec Fiston Ngoma. Suivez.
Justin Bitakwira, bonjour.
Bonjour Fiston Ngoma Mayabala.
En séjour à Ouvira, vous vous êtes adressé à la population locale à travers un meeting ce mardi. Quel est le message que vous avez pu apporter à votre base?
Mon message était de plusieurs formes, parce qu'il y avait plusieurs questions à traiter. J'avais la question sécuritaire à traiter. J'avais la question de cohabitation pacifique et de cohésion sociale dans le sud du Sud Kivu. Et j'avais la préoccupation de tracasserie routière, une corde qu'on a étalée dans la chaussée, où on retrouve plus de 6 services en train de rançonner la population, DGM, ANR, mairie, police nationale, sur la route principale. Et j'ai donné l'exemple que moi je me retrouve à rond-point Willeri à Lingwala, Kinshasa. Je vais vers la route principale, Willeri régie des eaux. Je trouve une corde sur Itaga, où il y a plus de 8 services qui sont en train de faire payer chacun 1000, une corde. Alors que chaque bureau a son office. Ça, c'est révoltant. Je l'avais dit au gouverneur, je l'avais dit au vice-premier ministre de l'Intérieur, ils ne m'ont pas écouté. Je vais résoudre cette question avec le seul président de la République. Des deux, il s'agissait de manifestations contre la MONUSCO. Il y a eu des morts ici chez moi, au Vier. C'était pour apaiser la tension. Et notre séparation avec la MONUSCO, ça ne doit pas se passer dans la douleur. Et ce qui se passe, ils doivent présenter les excuses à la population. Nous, on a considéré la MONUSCO comme un médecin venu au secours des malades. Il a fait tous les traitements pendant 22 mois. Maintenant, ça devient 22 ans. Quel malade ne souhaiterait pas chercher un autre médecin ou une autre formule médicale? C'est tout à fait normal. Donc le ras-le-bol qu'on peut comprendre à n'importe quel degré. Le chef de bureau d'Ouvira, c'est un Ivoirien. Je lui ai posé la question. Est-ce que vous pouvez admettre que chez vous, en Côte d'Ivoire, il y a une force qui fasse 22 ans sans résoudre le problème? Plutôt la situation s'envenime. Et quand on voit la terreur de Kassindi et consorts, quand on voit ce qui se passe dans les moyens au plateau de Mwenga Fizi, il y a suffisamment de partialité. Et moi j'ai demandé que le président de la République nous écoute. Si on peut ne plus renouveler le mandat de la MONUSCO en décembre 2022 pour qu'on tente une autre expérience, la RDC sans la MONUSCO. Si nous trouvons que leur présence est indispensable, nous leur ferons encore recours. Mais si nous trouvons que nous trouvons la paix nous-mêmes, sans eux, que le pays continue à fonctionner. Voilà mon message. Et puis tout le monde a compris qu'on ne doit pas aller dans la violence. Je crois que tout le monde a compris. Et j'ai quand même voix au chapitre.
Quel est le message que vous pouvez adresser aux mouvements citoyens, aux sociétés civiles qui envisageaient jusque-là d'organiser d'autres marches anti-MONUSCO?
Non, moi je pense que, personnellement, s'ils peuvent m'écouter, je crois que nous pouvons quand même faire les choses avec beaucoup d'élégance. Qu'exposer les jeunes à la mort, exposer les casques bleus à la mort. Les casques bleus sont venus d'une manière propre. Ils doivent partir d'une manière propre. Ça sera l'élégance mutuelle entre la République démocratique du Congo et l'ONU. Mais l'ONU doit comprendre qu'elle n'apportera jamais solution aux problèmes du Congo.
Qu'est-ce que les agents de la MONUSCO, les casques bleus, peuvent vaquer paisiblement à leurs activités?
Oui, moi je crois, en attendant le mois de décembre que nous proposons, et je ne dis pas au hasard le mois de décembre, il faut que ce soit accompagné, il faut qu'on essaie de discuter avec d'autres leaders politiques, spécialement les leaders de l'Est du pays, pour ne pas envoyer nos populations au canossa, comme on dit. C'est pas bon. Je sais que la colère est légitime. Je me mets dans leur peau. Je suis kivoussien, je suis de l'Est, je suis congolais. Je sens que la présence de la MONUSCO ne s'apprête plus dans les circonstances actuelles de notre pays. On va tenter une autre expérience.
Est-ce qu'ils peuvent sortir, commencer à travailler?
Oui, moi personnellement, je crois qu'il faut qu'on laisse ces gens vaquer à leur occupation jusqu'à trouver un moyen ordonné pour le retrait. Parce que même le gouvernement est disponible. Il a dit qu'il peut même réduire le délai. Parce que le plan de la transition, c'était jusqu'en 2024. Et la transition devrait se faire progressivement. Kalemi a fermé il n'y a pas longtemps. Donc petit à petit, on peut accélérer le mécanisme de transition. Et la MONUSCO va se retirer dans la paix et dans la cohésion.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Paul Badianama. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination d'Élisée Tikota et la supervision de Martin Sebujangoy. Merci de nous avoir suivis.